Le terme déjà vient de l'anglais, mais c'est un terme français. C'est un éditeur français qui l'a inventé. Ça vient du verbe to bite en anglais, donc mordre. Et ça fait référence à une forme de littérature anglo-saxonne qui est la chick lit, littéralement la littérature pour les poulettes, c'est-à-dire des romans pour les pépettes, pour les nanas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'est-ce pas, ou plus, mais pour des filles qui s'intéressent à la mode, au shopping, surtout à la drague, à la vie urbaine. Et donc la bitite fait référence à ces deux genres, ou plutôt à ces deux créatures, la fille moderne et les créatures accro. Alors les créatures accro, on pense en principal aux vampires, qui est quand même l'incarnation des canines bien placées et bien mordantes. Mais ce n'est pas la seule créature, le vampire a des crocs, tout comme le loup-garou, tout comme toutes les formes de métamorphes. Alors on a aussi des cygnes-garous, des baleines-garous, des papillons-garous. Ils n'ont pas de crocs, ils n'ont pas muté, mais on a surtout des garous prédateurs. Et je crois que c'est le style de créature auquel la bitite fait le plus référence, ce sont les prédateurs. Car même les anges, par exemple, dans la bitite, deviennent eux aussi des prédateurs. On a une série qui s'appelle Angel Blood, on a les anges mordent aussi, qui est sorti il n'y a pas longtemps. On a plusieurs romans où les anges sont dont des créatures agressives. On a des romans de bitite sur les zombies, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il va y avoir une adaptation dans quelques mois du roman World War Z. Mais aussi Apocalypse Zombie. Donc en fait, la bitite, ça ne traite pas que des vampires, mais de toutes les créatures surnaturelles, dangereuses. On a beaucoup qui viennent d'autres panthéons. On a les lamnies, on a les ghouls. On a aussi des romans de bitite sur des golems, sur des démons. On a énormément de créatures. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le vampire. C'est le thème du salon, les créatures mythiques dont Dracula est la plus célèbre. Et la bitite parle énormément de Dracula, c'est aussi une référence. Alors parfois c'est une référence un peu prise en dérision, par exemple dans Buffy. Buffy, on a un épisode où elle rencontre Dracula, et Dracula il n'est pas au mieux de sa forme. Il n'arrive pas à tuer la tueuse de vampires, il n'arrive pas non plus à la séduire. Il fait des grands jetés de cheveux, il fait des grands effets de cape, et ça fait un peu rigoler tout le monde. Elle le tue, bon il ressuscite, mais elle le tue, et il ressuscite, et finalement Dracula il finit par partir. Voilà, comme tous les vampires devant Buffy. Et donc, Dracula est la référence, mais ça ne dit toujours pas ce qu'est la bitite. Donc, c'est une littérature à base de vampires pour les filles. On peut se demander pourquoi pour les filles. Parce que ce sont des romans qui traitent essentiellement d'histoires de femmes, écrites par des femmes. On a très peu de romans de bitite qui ont été écrits par les hommes. On en a un récemment, Fabien Clavel, qui a écrit un français en plus. Qui a écrit Les Adversaires, qui est sorti, hein, si je me souviens bien, octobre ou début novembre, je crois. Donc c'est tout récent. Et je l'ai lu, on ne sent pas la différence. Donc un homme est aussi capable d'écrire de la bitite. Mais je dirais que c'est comme pour les romans roses, c'est comme pour les romans romantiques. Souvent, ce sont des femmes qui les écrivent, peut-être parce qu'elles ont entre guillemets, l'instinct, ou elles mettent leurs propres émotions dans les histoires. Donc souvent, la bitite est une histoire de femmes, et ça met en scène surtout des héroïnes. Donc, qui ne sont pas des super-héros, qui n'ont pas le slip rouge et la grande cape. Bon, ça arrive qu'elles aient le costume en cuir, un peu comme dans X-Men. Elles ne sont pas très à l'aise là-dedans, c'est souvent le copain qui leur a offert. Je tiens à préciser, Anita Blake se retrouve dans le 34 avec une tenue qu'elle qualifie de Barbie Bondage. C'est un petit short en cuir, des lanières de cuir tout partout, un bustier en cuir avec des clous. Et quand son copain lui donne, elle regarde ça comme une plaisanterie, et elle trouve que finalement, pour impressionner l'ennemi, c'est pas bon. Mais pour se battre en pleine forêt, c'est pas idéal, surtout quand c'est accompagné de cuissards d'un autre. Donc souvent, l'héroïne de bitite, c'est une femme comme les autres, qui a ce petit bourrelet, qui a ses problèmes d'argent, parce qu'il faut bien travailler, sommer le monde, ça ne nourrit pas sa femme. Elle a souvent des problèmes avec ses gosses, parce que c'est pas une adolescente, c'est pas une héroïne désincarnée. Elle avait des copains, et ça arrive qu'elle ait des gosses. On a notamment une héroïne qui s'appelle Rebecca King, qui a été inventée par une auteure française, Cassandra O'Donnell, qui n'est pas encore là. Elle sera là demain en dédicace.
Elle est là, mais pas en ce moment.
Voilà, c'est donc une héroïne de bitite qui n'est pas présente dans la salle, mais qui est présente quand même. Et donc son personnage est une sorcière de guerre liée au vampire, et qui est une fille adolescente, à moitié sorcière, à moitié vampire. Donc, il y a déjà entre l'adolescence plus le côté surnaturel, c'est un mélange d'étonnant. Donc, nos héroïnes ont souvent des problèmes à régler au quotidien, en plus de l'apocalypse qui leur tombe sur le dos, et c'est à elles de les sauver. La bitite se caractérise surtout en fait par trois caractéristiques. La bitite, je le disais, n'a rien inventé. En fait, elle s'est appuyée sur des racines très connues de trois styles littéraires très populaires. C'est le roman noir. L'enquête policière, le côté un peu sordide, glauque, où les voyous sont très méchants, et où les gentils finalement sont très méchants aussi. Et ils se servent des méthodes des voyous pour lutter contre le mal. C'est une des bases de la bitite. Souvent, on a un petit peu une intrigue qui rappelle San Antonio ou qui rappelle SAS. Parfois, c'est un petit peu dans le policier. Et on a aussi un côté sentimental qui est très marqué. Une histoire de bitite sans romance, sans grande passion, sans drame passionné, ça n'existe pas. Il y aura toujours un degré divers, à plus ou moins, avec plus ou moins de scènes de sexe. Des fois, il n'y en a pas du tout. Des fois, c'est juste suggéré. Des fois, ça peut tourner carrément à la pornographie. Mais il y aura toujours un côté passionné dans la bitite, car la bitite s'appuie sur les grands romantiques, ça s'appuie sur les drames comme Autant n'importe le vent, comme Les hauts du Levant aussi. Mais la bitite remonte à un troisième genre qui est aussi le surnaturel. Et ça, c'est un genre qu'on ne peut pas manquer car ça fait partie de la structure intégrante des univers de bitite, c'est du fantastique. Et c'est ce qui fait un petit peu la caractéristique principale de la bitite, c'est que ces trois racines sont indissociables et si on enlève l'une d'elles à ce genre, ça le dénature complètement. On ne pourra pas faire un roman de bitite où il n'y aura pas un grand romance, tout comme on ne pourra pas faire de la bitite où il n'y aura pas de fantastique, ça donnera une romance historique, mais il n'y aura pas. Ça changera complètement ce genre. Et en fait, le côté surnaturel, c'est ce qui donne un peu la patte de l'histoire, parce que la bitite, donc comme elle s'appuie sur des genres très connus, obéissant à des codes très précis, on pourrait se dire que tous les romans se ressemblent, puisqu'ils s'appuient sur les mêmes bases, ben c'est la même chose partout, on prend une recette, on prend les mêmes ingrédients, à la fin on aura toujours le même gâteau. Et finalement, c'est l'ingrédient surnaturel qui peut apporter sa différence, car on a une telle diversité de mythologie, de panthéon, que les auteurs peuvent s'appuyer sur énormément de sources pour créer leurs univers, et ils peuvent mélanger des mythologies grecques, romaines, vikings, ils peuvent remonter avec les contes et légendes inuits ou du Mexique. On a énormément de diversité. On peut par exemple s'appuyer sur les romans de Anita Peck, où durant les 10 premiers tomes, chaque tome sert à présenter un panthéon et une créature en particulier. Le premier tome permet de présenter l'univers en général, donc les vampires qui sont à la base du scénario. Le tome 2, on voit les loups-garous. Après, au tome 3, on a l'ami. Au tome 4, il y a je ne sais plus quel tome, il y a le Quetzalcoatl. C'est le serpent à plumes des mythologies aztèques et incas. Et chaque tome présente un panthéon diversifié avec toutes les caractéristiques de chaque créature. Et au final, ça permet de créer un univers, quand les créatures apportent leur touche, ça permet de créer un univers qui est fabuleusement riche. Et beaucoup de romans de bitite créent cet univers comme ça au fil des tomes. On le retrouve aussi dans la série Kate Daniels, qui est parue chez Bragelonne et qui malheureusement s'est arrêtée au quatrième tome, où l'univers commençait avec une héroïne, des vampires, quelques métamorphes. Et au final, on a tout un univers où ça se déroule dans un futur où il y a des failles avec toutes les créatures de tous les panthéons qui arrivent par des failles. Et donc, on a des vols de striges qui passent au-dessus de la ville. On a des créatures incas qui remontent par des gouffres. Et on a des ruches qui se forment de créatures surnaturelles en plein cœur de la ville. Donc, en fait, c'est ce côté surnaturel qui donne vraiment sa personnalité à chaque élément de la bitite. Et c'est un surnaturel qui est toujours, une caractéristique qui est très importante, c'est un surnaturel urbain. On n'a pas de bitite qui se déroule à la campagne, contrairement aux anciennes légendes des vampires avant l'arrivée de Dracula et de ses comparses, avant l'arrivée des loups-garous comme le loup-garou de Paris, le loup-garou de Londres, de New York et je ne sais où. Autrefois, les créatures surnaturelles venaient des campagnes. Je dirais, a priori, c'était les contes et légendes qu'on se racontait au coin du feu, quand on n'avait pas de quoi éclairer la nuit, quand on avait du mal à quitter son village où il y avait des bêtes féroces qui rôdaient la nuit, qui risquaient de dévorer les troupeaux et les jeunes bergers qui les gardaient. On se racontait ces histoires pour se faire peur, on inventait des créatures, et on n'avait pas trop ces légendes en ville parce que la ville était plus protégée. On avait un petit peu plus de lumière dans les roues, on n'avait pas les grands espaces boisé, effrayant, j'ai peur de sortir dans le noir car j'habite à la campagne, c'est encore le cas. On n'avait pas envie de toutes tous ces recoins où les prédateurs peuvent se réfugier, les prédateurs animaux, on a des prédateurs urbains aussi. Et donc la Bétite a repris ces créatures et les a implantées dans notre univers, je dirais, exactement dans la même optique qu'autrefois les gens qui vivaient à la campagne craignaient les prédateurs de la campagne, craignaient les prédateurs de leur milieu. La Bétite, de nos jours, tout le monde vit en ville quasiment. Et la Bétite s'intègre à la ville car elle intègre des prédateurs urbains. On a écrit un terrain où tout s'est levé dans la peur de l'agression, ne sort pas la nuit, ne te mets pas une mini-jupe, attention, tu vas te faire agresser si tu sors en boîte de nuit comme ça. On l'a un peu tous vécu, surtout les filles, mais messieurs, je vous assure, ça peut vous arriver aussi. Oui. Osez le kit, messieurs, s'il vous plaît, c'est charmant. Je suis en train de dire un moment de Bétite, justement, c'est le tome 7, je crois, de la série La Maison de la Nuit, où il vante les mérites des charmes du kit pour les jeunes messieurs. L'héroïne se pose la question et elle va vérifier, j'en suis pas encore sur ça, elle va vérifier si elle le porte à l'écossaise. J'ai hâte d'arriver à ce passage, n'est-ce pas? Et donc, pour en revenir à la littérature urbaine, de nos jours, comme les trois quarts de la population habite en ville, les prédateurs que nous craignons sont des prédateurs urbains et non ruraux. Et c'est pour cette raison, pour s'identifier à son lecteur, que la Bétite se déroule essentiellement en ville. Alors, dans quelle ville se déroule-t-elle? Ça peut se dérouler un peu partout. Souvent, comme c'est une littérature principalement anglo-saxonne, ça se déroule aux États-Unis, au Canada pour la série Autre Monde de Kelly Armstrong, ça peut se dérouler en Australie, en Angleterre. Ça se déroule vraiment en France parce qu'on a très peu d'auteurs de Bétite français. Mais pourtant, il y en a aussi, ça pourrait se passer n'importe où, dans n'importe quelle ville, car finalement les descriptions des villes sont un peu identiques. Il y a de temps en temps un nom qui est cité d'un bâtiment significatif de la ville pour permettre de poser les caractéristiques, mais en fait, ça pourrait être interchangeable. On pourrait remplacer les Twin Towers par la Tour Eiffel. Ça ne change rien à l'histoire, car de toute façon, ce qui est important, c'est l'univers. C'est les rues surpeuplées, enflammées, désertes la nuit. C'est le métro, avec ses tunnels qui sont effrayants, qui remplacent un peu les chemins de campagne, où autrefois, les déesses grecques vous attendaient au carrefour, ou les loups-garous venaient vous chercher sous un calvaire. De nos jours, c'est les stations de métro qui remplace ça, et on peut avoir des duels à l'épée dans les stations de métro. Ça, c'est Fanny Clavel, à nouveau, dans les adversaires. Première scène, duel à l'épée, dans les confins du métro. C'est aussi les boîtes de nuit. La Bétite parle de la vie nocturne, urbaine. Donc, c'est les bars, les boîtes de nuit, c'est tous les lieux, entre guillemets, de perdition. Et ça en montre tous les dangers et tous les charmes. Ça présente une vie urbaine comme on la voit très peu, finalement, quand on n'est pas forcément des créatures nocturnes. On travaille le jour, donc on a tendance à dormir la nuit. Et la Bétite nous montre un peu l'envers du décor en nous présentant la ville entre guillemets des contes de fées. C'est notre ville, mais sous le regard des créatures surnaturelles et nous montrant les dangers qu'il peut y avoir. Je fais une petite pause. Je parle beaucoup, je sais. Je parle très vite aussi, donc j'ai besoin un peu de recharger. Donc la Bétite, c'est surnaturel, c'est de la romance, c'est des combats à l'épée et de l'enquête policière, c'est de la ville. Et c'est des femmes. On rencontrera très peu de Bétites avec un héros masculin. Il y en a, j'en parlerai après, mais la Bétite à la base, ce qui a fait sa différence principale avec les romans, entre guillemets, de vampires d'autrefois, c'est le fait que l'héroïne est une héroïne, et ce n'est pas un héros. Et non seulement c'est une héroïne, mais en plus c'est une héroïne humaine. Et là aussi, je vais mettre des guillemets, mais ce que je veux dire par humaine, c'est que c'est un personnage qui a ses défauts, ses qualités, mais qui n'a pas de super pouvoir comme Superman en avait. Il était censé être le symbole d'une Amérique forte, invincible et sans peur et sans reproche. L'héroïne de Bétite, en général, elle a son caractère, elle est mal embouchée et surtout, elle n'est pas forcément prête à assumer le rôle de super-héros. Donc en fait, on a eu la première héroïne de Bétite, celle qui a déclenché la mode, je dirais, de la Bétite en France, c'est Bella, l'héroïne de Twilight. Je vais essayer de ne pas m'étendre trop sur le Twilight, car je crois qu'on en a déjà énormément parlé, c'est un peu un sujet vu et revu. Mais c'est aussi un élément qui a déclenché la mode, même si ce n'est pas forcément le plus ancien roman de Bétite. En France, c'est lui qui nous a orientés vers ce genre qui n'avait pas du tout touché notre pays. Et donc, pour parler de Bella, qu'est-ce qu'elle a cette héroïne de si spéciale? C'est une ado qui est boudeuse un petit peu quand même, qui n'est pas particulièrement jolie, elle n'avait pas de copain avant d'arriver à Force.
c'est pas la meilleure de la classe, c'est donc pas une reine de beauté, c'est pas un génie, c'est, ben, qu'est-ce qu'elle a pour elle? Elle a rien. Enfin, c'est une fille normale, c'est une fille comme nous, elle est un petit peu mûre pour son âge, puisqu'elle a vu le divorce de ses parents, elle a essayé d'aider sa mère qui est un peu immature, mais c'est pas forcément la fille que tout le monde remarquerait. Son seul atout, c'est qu'un vampire la remarque. Et un vampire tombe amoureux d'elle parce qu'elle a quelque chose de, quand même de particulier dont elle n'avait pas conscience, c'est que les vampires ne peuvent pas lire ses pensées. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Et je dirais, ça permet non seulement de faire le lien avec toutes les héroïnes de Buffy, mais avec la plus ancienne et surtout la plus mythique, Buffy. Buffy, c'est un peu comme Bella. C'est pas une reine de beauté. C'est pas la reine de beauté dans la série, c'est Cordelia. Buffy, ce n'est pas non plus la plus intelligente, puisque dans son rôle, c'est Willow. Buffy, ce n'est pas la plus drôle, c'est son copain Xander. Buffy, c'est la bonne copine de tout le monde. C'est une fille qui a ses coups de gueule, qui n'est pas forcément motivée pour devenir une héroïne non plus. Et comme Bella, elle a un talent, elle a un don. Elle, c'est de tuer les vampires. Mais elle, comme Bella, n'a pas choisi ce don et ça ne lui fait pas forcément envie. Comme Bella, qui tombe amoureuse, mais qui n'avait pas forcément envie de devenir la proie de tous les vampires du coin, Buffy n'avait pas envie non plus de devenir un aimant à vampires et d'avoir comme mission de les tuer les uns après les autres. Et c'est ce qui fait la caractéristique principale des héroïnes de Buffy. Ce sont des filles comme tout le monde qui ont une capacité qui les rend spéciales, mais sans pour autant faire d'elles des personnages surhumains. Et se conserver à la fois ses pouvoirs surnaturels et cette humanité fait d'elles des êtres uniques. Et c'est ce qui va les forcer à rentrer à chaque fois dans l'univers surnaturel. C'est un schéma qu'on va retrouver dans tous les romans de Wittgenstein, quelle que soit leur époque. Le personnage est toujours une humaine ou une créature entre les deux mondes qui, à cause de cette particularité dont elle n'a pas forcément conscience, va devoir petit à petit choisir entre les deux mondes. On peut penser à Anita Blake, qui est une humaine complètement humaine, qui s'est fait plaquer par son seul et unique petit ami quand il a découvert qu'elle était d'origine mexicaine, ses parents qui étaient très vieille Amérique, on va tout tolérer ça, donc elle n'aime pas trop les hommes au début, elle est très méfiante. Elle a une capacité, c'est de réveiller les morts. C'est quand même pas mal comme capacité, mais elle est pragmatique, elle en fait son métier, mais ça lui vaut aussi d'être mise à l'écart, d'être un peu traitée de sorcière, de reine du vaudou. Bon, bah, elle est nécromancienne et ça lui sert à gagner grassement sa vie même. Mais voilà, et malheureusement pour elle, cette capacité qui est assez unique la fait rentrer un petit peu dans le monde surnaturel, car lorsqu'il y a un crime qui se produit ou des disparitions et que la police d'humains donc reste le bec dans l'eau sans pouvoir identifier le coupable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire appel à la seule personne qui soit humaine donc dans leur camp et qui ait quand même des capacités surnaturelles. Ils vont faire appel à Anita Blake ou à Buffy pour les aider à résoudre le crime que eux-mêmes ne peuvent pas élucider. Et donc, pour résoudre ce crime, l'héroïne va être obligée de rentrer un petit peu dans ce monde surnaturel. Alors, au début, c'est avec réticence. Elle va aller interroger, c'est Jean-Claude, le vampire, tenancier d'une boîte de nuit qui s'appelle Plaisir Coupable. Ça veut tout dire. Je crois qu'on évoque déjà l'évolution de la sérénité avec le Plaisir Coupable. C'est une boîte de nuit où les vampires réalisent au moindre désir, sans limite, sans lever le prix. Et donc elle va y aller à contre-cœur et le vampire va essayer de la séduire. Il mettra environ 10 tomes à y arriver. Et ça ne va pas se passer si facilement que ça, mais petit à petit, comme elle est bien obligée d'aller résoudre des crimes parce qu'elle ne supporte pas l'idée que des humains soient massacrés impunément, elle va chercher à résoudre l'enquête, elle va devoir contacter les monstres qui peuplent la nuit, les créatures surnaturelles, elle va avoir des relations avec eux. Elle va avoir des contrats, des dettes envers eux, elle va devoir rembourser ses dettes. Et petit à petit, l'héroïne va s'engager dans un cycle qui va petit à petit la forcer à s'impliquer jusqu'au jour où il y a un choix qui se fait. Est-elle encore humaine ou est-elle devenue elle aussi une de ces créatures qu'elle traquait? Ce qui pose souvent l'héroïne à se poser la question de est-ce que les monstres sont vraiment ceux qu'ils sont? C'est une des interrogations récurrentes dans la Buffy. Souvent les personnages partent au début du point de vue que les humains sont des gentils, c'est nous. Les créatures surnaturelles sont des monstres qui ont les moyens et les appétits pour traquer les humains. Et donc par conséquent, qu'est-ce qu'on fait des monstres on les traque, forcément, c'est le rôle. Sauf que au fil des tomes, les héroïnes réalisent que certes, les monstres ont les moyens de tuer des gens, mais ce n'est pas la capacité de tuer qui fait de la personne un monstre, c'est sa volonté de le faire.
Et souvent, on s'en aperçoit au fil des romans, il y a autant finalement de créatures surnaturelles qui deviennent des monstres que des humains. Et on le voit dans certaines séries, parfois certains monstres prennent, certains vampires prennent un humain. Hein, celui-ci, je vais en faire un des miens parce qu'il serait utile. Et c'est comme ça que dans la série Cassandra, la prophétesse, qui devient une voyante et tout, c'est comme ça que c'est, excuse-moi, Jack l'Éventreur, qui est transformé en vampire. Alors, déjà, quand il était humain, il a fait des choses pas forcément très catholiques. Et pourquoi les vampires décident-ils de le tuer, d'enfermer l'homme? Ben, c'est facile, ils ont besoin de bourreau. C'est pratique. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'un humain tueur en série transformé en vampire deviendra un vampire tueur en série. Et peut-être que tuer des humains deviendra un petit peu trop facile. Donc, bon, en fait, sur la Terre, on va se faire tuer des vampires. Ce sera beaucoup plus intéressant comme chasse. Et leur gentil bourreau devient un petit peu incontrôlable. On a aussi ce principe dans la série Chasseuse de la nuit, où des vampires. Non, c'est pas la série Chasseuse de la nuit, c'est dans la série Mercy Thompson de Patricia Briggs, où des loups-garous se font tuer à l'appel. Et ils font appel donc à Mercy Thompson et à ses amis loups-garous pour élucider les meurtres. Et ce sont des loups-garous qui se sont mis à transformer des tueurs en série humains. Pourquoi? Ben pour avoir des loups-garous plus forts, plus motivés, et comme ça ils pourront agrandir leur horde et avoir des loups-garous qui n'auront aucun scrupule à tuer de plus en plus de gens, puisque de toute façon c'est déjà des criminels à la base. On a aussi dans la série Autre Monde de Kelly Armstrong, où des tueurs en série, là aussi c'est un thème très pratique pour créer des intrigues. On prend des tueurs en série humains, on les transforme en monstres, et comme ça ils sont encore plus monstrueux et plus difficiles à la fois à attraper et à ramener dans le droit chemin. Et donc nos héroïnes sont aux prises avec des monstres de plus en plus rocambolesques. Elles sont aux prises avec des monstres de plus en plus difficiles à tuer, puisque c'était déjà des monstres quand c'était humain. Et elles sont aux prises avec elles-mêmes, parce que finalement elles s'aperçoivent que, à force de devoir traquer les criminels, elles ont dû faire des choses qui ne leur plaisaient pas. Parfois pour sauver des humains, elles ont dû faire elles-mêmes des actes horribles. Je pense à Anita Blake dans, je crois que c'est Lune Bleue, où pour sauver une petite fille prise en otage, elle est obligée de torturer quelqu'un, alors qu'elle s'était toujours refusée à recourir à la torture. Elle est obligée de torturer un humain, en plus, c'était même pas un loup-garou. Et elle s'aperçoit que finalement, elle a fait des choses qui font d'elle une personne qu'elle-même condamnerait. Et entre le fait que ces héroïnes donc, ont des pouvoirs surnaturels et emploient des méthodes un petit peu, comment dire, réprouvées, elles s'aperçoivent que finalement elles n'ont plus grand chose de différent des créatures qu'elles traquaient, et elles se posent la question, est-ce qu'elles sont encore humaines? Buffy se pose la question dans la saison 5, je crois, où quand, pour sauver sa sœur, elle finit par se dire qu'elle n'a plus trop de raison de vivre, et elle préfère mourir, parce que sa sœur, au moins, elle est humaine, et elle a une vie à mener, à d'espoir, alors qu'elle, elle a sauvé le monde, elle a tout sacrifié, elle a plus de petite amie, elle a plus de vie, elle a arrêté ses études pour travailler, pour subvenir aux besoins de sa petite sœur, et elle est tellement plongée dans le monde surnaturel que finalement, elle n'a plus aucun moyen de se raccrocher. Et on le retrouvera souvent, les séries de Beatleet peuvent s'étaler sur des dizaines de tomes, et si dans les 5 à 10 premiers tomes, l'héroïne plonge petit à petit dans le monde surnaturel, à partir du 10e tome, on a souvent une transition où l'héroïne est complètement passée du côté surnaturel, du moins elle ne veut pas l'admettre, mais elle est plus surnaturelle qu'humaine, et elle s'interroge sur ses raisons de continuer à se battre, et sur ses raisons de continuer à vivre aussi, parce qu'elle n'a plus grand-chose, elle ne correspond plus à l'image du bien qu'elle se faisait, qu'elle avait d'elle-même au début. Et c'est ce qui donne le plus intérêt aux séries, c'est qu'avec ce questionnement des héroïnes, on a des séries qui évoluent, où le personnage n'est pas comme Tintin qui, au cours des 25 tomes, reste toujours un jeune garçon qui ne vieillit pas, qui a toujours ses petits pantalons bouffants. Les héroïnes vieillissent. C'est encore un des points caractéristiques de la Buffy. Au début, on avait des héroïnes qui étaient des adolescentes, peut-être, pour Bella, pour Buffy, pour les séries de Buffy, pour jeunes filles. Et au fil des jeunes femmes, par exemple, comme Anita Blake, comme Suki Stackhouse, comme,
toutes les élèves de l'IPI, Catherine Crawford aussi, sont des jeunes femmes qui ont à peine la vingtaine. Elles viennent de finir leurs études, elles rentrent dans la vie active, elles ont décroché leur premier boulot, sont un peu naïves. Mais au fil des tomes, elles vieillissent. On a un tome ou deux de petites par an. Et à chaque tome, je dirais que la chronologie des histoires correspond à peu près à la chronologie des parutions. Et donc, au bout de 10 ans, l'héroïne, elle a pris 10 ans elle aussi, en général. Et on voit ses préoccupations changer, son physique évoluer, ses amours se transforment aussi. C'est ce qui fait le succès de la déclite, les goûts et les personnages évoluent en tant que lecteur. On a un peu le même phénomène, par exemple, avec Harry Potter, où le héros avait une dizaine d'années quand il est né. C'était une littérature destinée à peu près aux 10-12 ans, donc c'était en parfaite adéquation entre le héros et le lectorat. Et quand la série s'est terminée, Harry Potter avait 17-18 ans, je crois, je sais pas la bonne, et les lecteurs avaient à peu près 17-18 ans aussi, même si certains lecteurs comme moi ont découvert Harry Potter à 30 ans. Donc les goûts ont évolué, les personnages ont grandi, et la BD a fait exactement la même chose. Buffy, par exemple, quand on la découvre, elle a 16 ans. C'est une jeune fille qui arrive dans un nouveau lycée, qui est un petit peu innocente, qui croyait laisser les vampires derrière elle et qui repartira à zéro. Un peu comme Bella qui arrivait dans un nouveau lycée et voulait repartir à zéro avec son père. Un peu comme l'héroïne Zoé Blackbird de Redbird, je crois, dans la maison de la nuit, qui arrive dans l'école de la nuit quand elle est transformée en novice. Elle quitte sa famille, elle trouve un nouveau foyer, elle découvre la vie des novices vampires. C'est des héroïnes très jeunes et au fil des tomes, on les voit évoluer, acquérir de nouveaux pouvoirs, une nouvelle famille, on les voit surtout mûrir et découvrir des préoccupations qui sont aussi les nôtres. C'est ce que je disais au début, les préoccupations des héroïnes de BT sont les nôtres, avec le côté surnaturel qui fait qu'on peut quand même se détacher. On a un double jeu dans la BT d'identification. C'est des héroïnes qui ont des défauts et qui ne sont pas des super-héros, mais en même temps, le détachement par le fait qu'elles soient plongées dans des problèmes surnaturels font que nous, on n'a pas ce genre de soucis. Même si, comme les héroïnes, on a des problèmes de régime, on a des problèmes de voisinage, on a des problèmes de comment trouver les sous pour faire les réparations de la maison ou payer le chauffage. Elles, non seulement elles ont ça, mais elles ont plus l'apocalypse à gérer, un tueur en série à attraper et choisir entre le loup-garou et le vampire du coin. Et c'est là où je veux en venir, c'est ce qui fait aussi le charme de la petite, je trouve beaucoup de charme à la petite, c'est le fait qu'on a une romance qui n'est jamais très simple, comme la vie de nos héroïnes où on a à peu près une apocalypse à chaque tome, ou une tueur en série à chaque tome. On a aussi une romance qui se renouvelle à... D'accord. Le coup d'envoi est donné pour le dernier sprint final. La romance, on a dit, il ne faut pas que je la rate quand même. Donc, on a une romance qui se renouvelle. Souvent, on a un duo de prétendants. Alors, on a le célèbre vampire contre loup-garou. Je ne parlerai pas de Twilight. Je vais parler de Anita Blake, parce que ces loups-garous et ces vampires sont très sympathiques. On a Jean-Claude, c'est un Français, l'auteur a trouvé Jean-Claude comme prénom. C'est le plus représentatif des Français, Jean-Claude Van Damme, mon de Pouille n'est pas français, heureusement. Elle aurait pu prendre Johnny quand même. Donc, Jean-Claude le Français, alors c'est le vampire qui fait fantasmer les Américains. Alors, je suis désolée, pour moi, Jean-Claude, il ressemble à Francis Allan. Il a les cheveux longs, des chemises à jabot, des pantalons moulants et des cuissardes au-dessus du genou. Ça fait fantasmer beaucoup d'Américaines. Il est très sensuel, il chante, il parle bien. C'est Francis Allan aux États-Unis. C'est notre vampire. De l'autre côté, le loup-garou. Il est tourmenté. Alors, pour une fois, dans l'état de l'ex, ce n'est pas le vampire qui est tourmenté, c'est le loup-garou. Le pauvre, il est devenu loup-garou parce qu'il a fait un don du sang et il a été contaminé parce qu'il voulait sauver des enfants. Il est gentil, ce loup-garou. Et depuis qu'il a été transformé en loup-garou, il cherche encore à sauver le monde. Il veut rétablir des règles à ses ordres de loup-garou. Il veut diriger sa meute, mais sans froisser une oreille. Il veut essayer quelqu'un, ni tuer le président chef de meute, qui est foncièrement mauvais et qui, en plus, il a des piercings partout et il aime souffrir. C'est le mal des piercings. Et donc, on a un duel entre toujours un personnage tourmenté. Là, c'est le loup-garou. Des fois, c'est le vampire aussi qui est tourmenté. Twilight, on est là. Et un personnage qui est plus sensuel. Et on verra toutes les séries de Bikini, il y aura toujours la tentation entre le bad boy et le gentil ténébreux, souvent, et plein de remords. Dans Buffy, ce sera Spike, le merveilleux Spike et Angel. Donc le vampire Angel, ténébreux, tourmenté, qui a retrouvé son âme et qui se repent de tous les crimes qu'il a commis. Buffy veut jouer à la maman avec lui, elle veut le consoler, elle veut être gentille avec lui, le bercer. Et à côté, il y a Spike. Il est blond, décoloré, c'est un rocker, il a un grand nom pour enculer, il fait fantasmer tout le monde, et il a absolument pas de remords pour tout ce qu'il fait, et c'est ce qui le rend encore plus charmant. Si on prend par exemple le journal d'un vampire, on a Damon et Stéphane. L'un des deux, c'est deux frères, c'est deux vampires, il y en a un des deux qui est tourmenté, et l'autre qui est un jouisseur avec des costumes Armani, des lunettes de marque, une Ferrari, exactement sur le même principe que dans True Blood, on a Billy Compton, le vampire ténébreux, tourmenté, plein de remords de ce qu'il a fait, qui ne veut pas voir le sang à part synthétique, et on a, c'est l'adorable Eric Northman, le vampire, le viking, qui est blond forcément, qui tient, comme beaucoup de vampires, dont par exemple Jean-Claude, qui tient un club, le Fantasia, qui rappelle un peu le plaisir coupable avec des stripteaseurs vampiriques, de l'alcool à gogo. Attention, les vampires font des très beaux stripteases, il paraît, parce qu'ils sont, comme on le disait, les vampires ont des capacités physiques particulières, ils sont très souples, mesdames. Ils sont particulièrement très musclés, ils ont eu des années pour apprendre à danser, à se déhancher, donc les stripteases vampiriques, apparemment, sont particulièrement recherchés. Alors, tous les tomes où il y aura un club, il y aura un stripteaseur de vampire. Et dans la série True Blood, ils en jouent énormément. On a, entre la deuxième et la troisième saison, il y a eu une mini-saison d'épisodes, des petits trailers en 5 minutes. Et l'un d'entre eux a fait beaucoup de buzz sur Internet, parce que ça montre Eric Northman et sa coéquipière Pam en train de recruter pour le club de vampires. Et donc, on voit Eric en train de recruter ses stripteaseuses vampiriques. C'est un spectacle à couper le souffle. Et donc, dans tous les romans de Big Hit, on aura le dilemme amoureux. Doit-on choisir le méchant garçon qui est quand même plus rigolo à fréquenter, ou doit-on choisir le gentil garçon? Je ne vais pas vous dire qu'ils vont choisir, parce que moi, c'est rien, parce que beaucoup de séries de vampires ne finissent jamais. Je n'ai pas vu le dernier Twilight, mais il paraît qu'ils ont changé la fin et qu'il risquerait d'y avoir des suites ensuite, que l'auteur n'a pas encore écrit. C'est-à-dire que Stéphanie Meyer n'a pas écrit, mais ils ont parlé de faire des scénarios à partir de sa série. Et la plupart des séries de vampires ne donnent jamais de fin à la romance. Par exemple, Anita Blake, on en est au tome, je crois que le tome 23 va bientôt sortir. Et donc au début, l'héroïne était pure, chaste et presque vierge. Elle ne refusait de sortir avec les créatures parce que voilà, il faut les tuer, c'est des monstres. Là où je m'en suis arrêtée, elle a une douzaine d'amants, tous en même temps. Hein. Elle est devenue elle-même une succube et elle a besoin de sexe à dose très haute pour survivre. Et donc, entre 10 et 12, voire 15, en même temps, n'est-ce pas? Et ils sont tous grands, musclés, ténébreux, très musclés. Et ce qui m'amène aux dernières évolutions des romans de Big Hit. Comme je le disais, c'est souvent des romans qui sont assez féministes, avec des héroïnes très présentes, leurs aventures sont racontées à la première personne. Et maintenant, on a la série La Corvée, la Dame Noire. On a des séries qui s'appellent Les Gardiens de l'Éternité. On a Minuit. Et ce sont des séries qui présentent des messieurs. Alors on va dire, ce n'est pas total. Parce que ces messieurs qui sont les héros, ce ne sont pas des héroïnes, donc c'est des messieurs. Ils sont très machos. Ils sont très virils. Ils font environ 2,20 m pour 150 kg de muscles. Ils aiment bien jouer avec leurs grosses épées, leurs gros poignards et leurs mitraillettes. Ils sont, c'est un peu un mélange entre Rocco Siffredi et Schwarzenegger. si vous êtes sûr. Et donc, on va pas dire que c'est féministe quand même. Et le but de chaque tome, généralement, c'est de récupérer une bonne femme qui est en danger, de la sauver d'elle-même et de tous les monstres autour qui veulent la dévorer, de la ramener chez soi et de la séduire. Bon, c'est pas très féministe. Et beaucoup de personnes, du coup, ont dit, mais ce n'est pas de la bifide, ça, c'est ils appellent ça mommy porn, donc du porno pour les dames, pour les ménagères, les mamans, parce que ça contribue, c'est le terme à la mode pour en parler, parce que il y a beaucoup de scènes très, très, très plus érotiques, on va dire, et les femmes sont pas, on dit que c'est un peu trop macho pour être féministe. Sauf que j'en ai lu quelques-uns, et bizarrement, je trouve ça plutôt féministe, parce que ces gros guerriers virils, qui sont des vampires extraterrestres, attention, souvent, des vampires extraterrestres, eh bien, ces vampires extraterrestres, ils ont la fâcheuse tendance, finalement, à se mettre un petit peu à quatre pattes devant leurs dames, comme des serpillères. Ils ont tous, au début du roman, on a l'impression que c'est des gros malabars, et quand ils rencontrent la femme de leur vie, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ne sont pas dignes d'elle. On a celui qui a été esclave pendant des années, qui se sent complètement souillé et qui n'ose pas lui faire des bisous.
On a celui qui a perdu sa femme dans un drame horrible et qui ne peut plus vivre un grand amour. Alors, il n'est pas bien dans sa vie. Il y a celui qui a été défiguré dans un accident et non, je ne suis pas assez beau pour elle. Et tout le but du roman, ça va être sauver la femme de sa vie, mais accomplir aussi une quête de rédemption pour se montrer digne de sa femme. Et au fil de 2 ou 3 tomes, je me suis aperçue qu'en fait, au fur et à mesure que chacun des héros de ces confréries diverses et variées trouvait l'âme sœur, on avait une confrérie dans la confrérie, parce que les femmes de ces héros se regroupent ensemble et elles mettent ces messieurs à la baguette. Alors au début, les guerriers disent les femmes, vous restez à l'abri dans vos havres, ça s'appelle les havres obscures dans certaines séries, et dans vos maisons protégées, on veille sur vous et on va au combat. Et au final, on s'aperçoit que les femmes, elles se regroupent ensemble, elles ont toutes aussi leur pouvoir surnaturel. Et comme ces messieurs sont des vampires et qu'ils dorment le jour, elles fêtent l'espoir, elles prennent les clés de la maison, elles vont tuer les méchants en pleine journée, toutes seules, et elles se débrouillent très bien sans eux. Et quand elles rentrent à la maison et que leur monsieur veut dire « Eh oh, c'est moi le grand costaud », ben, chérie, toi tu dormais et je me suis bien débrouillée sans toi. Et donc voilà, ce sont des romans soi-disant machos qui ne sont pas censés faire de la bitite, mais on s'aperçoit finalement que les gros machos sont très fragiles, ils passent beaucoup de temps à quêter l'approbation de leur madame, et quand ils sont à la maison, ils passent énormément de temps à à faire du bodybuilding, c'est un peu l'équivalent de l'aérobique, hein. Ils passent beaucoup de temps à... Est-ce que je vais dire à polir leurs armes, à faire reluire leurs... Ils s'occupent de faire plaisir à madame, à mettre en état le rouge du travail et à se muscler. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu la trilogie cuisine, esthéticienne, aérobique, à la sauce masculine. Donc, je pense que c'est d'habilite aussi, avec un petit côté macho pour émoustiller. Mais comme c'est écrit par des dames, encore, et bien cette bitite un peu masculine, ces messieurs ressemblent quand même à des femmes surmusclées, quoi. C'est l'Amélie Mauresmo, Amélie Mauresmo du vampire. Donc voilà, on va conclure là-dessus, je crois, avec de la bitite virile et musclée, mais qui finalement, c'est juste une variante de la bitite, parce qu'il y a eu tellement d'histoires de vampires et de grandes romances avec un ou deux tueurs en série pour pimenter, que les lecteurs s'en sont un peu lassés. Donc les auteurs se sont tournés vers des anges, des démons, des sorcières de guerre comme la série de Cassandra O'Donnell. Elles se sont retournées vers des apocalypses comme Fabien Clavel. Et d'autres se sont tournés vers des romans un petit peu plus érotiques avec des messieurs qui sont aux ordres de ces dames comme on en rêve toutes.
Merci beaucoup à Sophie Dabat pour cet exposé sur la bitite, étant moi-même un grand fan de bitite, là je me suis régalé. Mais c'est vrai que j'apprécie quand même beaucoup moins les séries comme Minuit, etc., de Lara Adrien.
J'ai un peu de mal moi aussi, parce que je trouve que souvent les scènes de sexe sont vraiment trop... Enfin, j'ai plus l'impression de lire un rapport de gynécologie qu'une scène d'amour. Et souvent ça prend un peu le pas... plus descriptif que sensuel. Et ça prend un peu trop le pas parfois par rapport à l'intrigue policière. Quand on voit la mine à Blake, au début c'était du policier surnaturel. Et maintenant j'ai du mal à trouver une enquête ou un meurtre entre deux scènes de sexe. Et il y a beaucoup de fans qui ont un peu décroché. Après, c'est que l'auteur a évolué, comme on disait, en 20 ans, 25 ans de série. L'auteur a ses goûts changent, elles sont nouvelles et ça plaît à de nouvelles personnes. Nous, on trouve d'autres séries quand ça ne nous plaît plus. C'est bien aussi qu'il y ait de la nouveauté pour tout le monde.
Des questions pour Sophie ?
Non, pas une question, mais une remarque. On voit très bien comment on passe de ce dernier segment de la bitite à 50 variations degrés.
Oui, voilà. Ah oui, complètement. Oui. Je ne l'ai pas lu, mais je vais le faire parce que justement, je me suis posé la question aussi.
Mais en fait,
par curiosité, j'ai lu quand même.
En fait, vous connaissez l'histoire, c'est que en fait, la fille, elle a fait un buzz sur Internet en écrivant les scènes de sexe qui ne sont pas dans Twilight.
C'est la star du sexe, en fait.
Voilà, c'est ça. Et après, il y a un éditeur qui a été malin, qui lui a dit « Non, non, vous enlevez tout l'aspect vampire et vous me faites un truc de porno soft. » Voilà.
C'est un peu le principe des derniers Anita Blake, du sexe relié par 2 ou 3 petites anecdotes autour, en fait. Bon, je suis peut-être un petit peu dévalorisante, mais j'étais déçue un peu par l'évolution de cette série, parce que justement, c'est une série où il y avait un très bon équilibre au début entre le surnaturel, le policier et la romance. Et là, à la fin, c'est énormément déséquilibré par rapport, et les lecteurs des premiers tomes ne se retrouvent plus dans le personnage, dans l'évolution de son caractère, un peu comme certains romans feuilletons dont on parlait tout à l'heure, où il y a eu tellement d'auteurs qui se sont succédés à décrire le personnage, qui changeaient d'opinion, de caractère, et que son physique lui ressemblait. Mais là, c'est un peu pareil pour l'évolution d'Anita Blaine, de certaines séries, par exemple Suki Stackhouse, qui n'a pas changé de caractère. Elle-même, le personnage dit qu'elle a tellement changé au fil des temps qu'elle ne se reconnaît plus. Et Alan Ball, qui a adapté la série de romans en série télévisée, va arrêter. Parce que justement, il dit qu'il ne sait plus dans quelle direction aller parce qu'il ne retrouve plus le personnage.
D'autres questions ? Merci encore, Sophie.
Je vais leur savoir.
Voilà, Sophie, je vais leur savoir.